Alors, je vous invite à trouver les psaumes, d'abord le psaume 120. Le psaume 120. Alors, que je vous rassure d'emblée que nous n'allons pas lire les psaumes 120 jusqu'au psaume 134. Hein? Juste pour vous rassurer, sinon vous avez dit, mais le message va durer combien de temps? Alors, les psaumes 120 jusqu'à 134 s'appellent les cantiques des montées, ou alors les chants des degrés, ou alors les psaumes des pèlerins. Il y a plusieurs noms, et si vous voyez ça sur votre Bible, en principe vous le voyez, parce que ça fait partie du texte inspiré du Saint-Esprit. Cantique des montées, chant des degrés, ou les psaumes des pèlerins. Il s'agit des psaumes qui étaient chantés lorsque les Juifs venaient à Jérusalem pour louer le Seigneur à trois périodes de l'année. C'est-à-dire, ils venaient pour louer le Seigneur de partout du monde à l'époque, à la fête de la Pâque, la fête de la Pentecôte et la fête des Huttes. C'est-à-dire, au printemps, en été et à l'automne. Et quand tu venais des quatre coins du pays d'Israël, eh bien, ils venaient bien sûr en famille pour adorer le Seigneur. Et en route, pour venir, ils se chantaient ces cantiques. Et bien sûr, ils chantaient ces cantiques pour les préparer, pour arriver au temple et pour vraiment louer Dieu avec tout le peuple de Dieu. Autrement dit, ils voulaient préparer leur cœur avant de venir au culte. Alors, rien que ça, c'est un sujet d'une grande méditation. Comment est-ce que vous préparez votre cœur avant de venir au culte? Dans la voiture, est-ce que vous écoutez des cantiques? Est-ce que vous chantez des cantiques? Est-ce que vous vous disputez? Est-ce que vous respectez les enfants? Est-ce que vous respectez votre conjoint? Est-ce que vous vous préparez avant de venir au culte? En tout cas, c'était un principe important chez le peuple de Dieu autrefois. Dans ces psaumes, il y a 15 en tout, bien sûr, de 120 jusqu'à 134, il y a 15. 4 ont été écrits par David, 1 par son fils Salomon, et 10 sont anonymes. Certains pensent que le roi Ézéchias aurait composé quelques-uns de ces chants. Alors, pour résumer ces chants, il y a plus ou moins 3 thèmes principaux. Il est question des afflictions et des souffrances du peuple de Dieu. Et on sait que les chrétiens, depuis toujours, connaissent des afflictions et des souffrances de toutes sortes. Il est question aussi de la protection de Dieu, comment Dieu, dans sa tendresse et dans sa bonté, protège son peuple d'une manière ou d'une autre. Et le troisième thème principal, c'est le fait qu'il y a de nombreuses bénédictions accordées au peuple de Dieu, au peuple élu, au peuple que Dieu a choisi, que ce soit Israël autrefois ou que ce soit les chrétiens d'aujourd'hui. Je disais que les juifs, le peuple de Dieu, chantent ces cantiques avant de venir au culte. Je disais il y a quelques instants qu'il y a 15 chants. Alors, il y a un auteur qui a dit, mais vous savez, il paraît que, j'aime toujours pas quand on dit il paraît que devant le temple, il y avait 15 marches. Et que le peuple de Dieu chantait un cantique sur chaque marche en montant au temple. Mais essayez d'imaginer l'embouteillage avec des milliers de juifs qui viennent et qui s'arrêtent sur chaque marche. Alors, le culte ne commencerait jamais à l'heure. Donc, je pense que c'est une idée, mais je ne retiens pas cette idée. Alors, ce matin, nous n'allons pas lire les 15, on va lire 2. Et c'est les 2 premiers. Donc, je vais lire le psaume 120. Le psaume 120. Je vous mets déjà le résumé de ce psaume en 4 mots. Le mot détresse, verset 1. Délivrance, verset 2, 3 et 4. Demeure, versets 5 et 6, danger, verset 7. Je lis le psaume 120. Chant des montées. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'ai crié, et il m'a répondu. Éternel, délivre-moi des langues fausses, de la langue trompeuse. Que te donnera l'Éternel et que t'ajoutera-t-il, langue trompeuse? Les flèches aiguës du guerrier avec des charbons ardents du genêt. Malheur à moi, j'ai dû séjourner à Méchec, habité parmi les tentes de Kédar. J'y ai habité trop longtemps avec ceux qui détestent la paix. Je suis pour la paix, mais quand j'en parle, eux, ils sont pour la guerre. Ce chant commence avec la détresse et se termine avec la guerre. Hein, c'est pas très gai comme psaume, si on veut. Mais c'est un psaume, comme tous les psaumes, important. Parlons un peu de la détresse, verset 1. Que fait-il dans la détresse? Dans la détresse, j'ai crié. J'ai prié Dieu. On pourrait passer la matinée là-dessus. Qu'est-ce que nous faisons dans la détresse? Il y a plusieurs réactions. Il y a des chrétiens qui boudent Dieu et qui boudent les frères et les sœurs. Il y a des chrétiens qui, dans la détresse, doutent de tout. Il y a des chrétiens dans la détresse qui râlent. Certains disent des gros mots. Parfois, et j'en ai entendu, des blasphèmes. Certains chrétiens entretiennent des pensées de vengeance et de haine. Mais le psalmiste, au lieu de faire tout ça, malgré sa grande détresse, il prie. Et il dit, « Et le Seigneur m'a exaucé. » Le Seigneur ne nous exauce pas une minute après notre détresse ou une seconde après notre prière. Parfois, il le fait. Mais bien souvent, on doit attendre. Mais sachez, et c'est un thème qui est revenu plusieurs fois depuis le début du culte, sachez que nous devons nous confier en Dieu. Notre vie est entre ses mains et il exaucera en son temps et à sa manière. La détresse, versets 2, 3 et 4, la délivrance. Dieu m'a délivré, Dieu m'a exaucé. Ici, les questions des traits aigus ou des flèches enflammées du guerrier, des charbons ardents, etc. Et ce sont des images de la puissance du mensonge et de la puissance de la langue. Parce que le psalmiste souffre à cause de ce que les gens disent. Vous savez, notre langue et nos paroles peuvent faire tant de bien et tant de mal. Il y a une puissance incroyable dans une parole, dans une phrase, dans un paragraphe ou dans un discours. Ça peut changer le cours de l'histoire. Et avec nos paroles, eh bien, nous pouvons construire, nous pouvons démolir, nous pouvons encourager, nous pouvons décourager. Nous pouvons édifier, nous pouvons casser. Le psalmiste était conscient de la puissance des paroles et il dit, mais ça n'apporte rien, toutes ces mauvaises paroles, tous ces mauvais propos. Et Dieu n'accordera pas sa bénédiction à ceux qui cassent, qui découragent, qui divisent et qui font tant de mal. Il y a beaucoup de versets dans le livre des Proverbes qui parlent de la puissance de nos paroles. Et le chapitre par excellence dans le Nouveau Testament, c'est Jacques, chapitre 3, où Jacques emploie 6 images pour parler de la puissance de ce petit membre, mais qui peut faire tant de bien, mais qui peut faire tant de mal. Le psalmiste connaît la délivrance, il prie et Dieu exauce. Quelques années ou quelques siècles plus tard, lorsque le prophète Jérémie exerçait son ministère en Israël, lors d'un temps de crise nationale dans le pays, Jérémie dit, « Ne craignez pas le roi de Babylone, ne le craignez pas. » Dieu dit, « Je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. » Il y a toujours un temps. Et là, à l'époque de Jérémie, ils ont dû attendre des décennies pour comprendre et pour recevoir la délivrance de Dieu. Un verset dans le psaume dit, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » La délivrance, versets 5 et 6, il est question de sa demeure, de demeure du psalmiste. Alors il dit qu'il a habité dans deux villes différentes. Méchec, qui est tout à fait, même par l'Israël, au nord, au nord-est, au nord d'Israël, nord-ouest, à vrai dire, et puis la ville de Kedar, ça s'écrit avec un Q et avec un K. Eh bien, à Kedar, c'est tout à fait au sud d'Israël. Et ce sont deux villes non-juives. Donc, le psalmiste dit, mais j'ai habité dans ces villes et j'étais malheureux. Parce que j'étais entouré par des non-croyants. Ou il aurait pu dire par des païens. Il était entouré par des gens qui étaient incrédules, qui ne lisaient pas la loi de Dieu, qui ne mettaient pas en pratique la loi de Dieu. Il était conscient qu'il vivait avec des gens qui étaient anti-Dieu. Il n'était pas à l'aise. Il connaissait des tensions, de l'opposition. Il vivait parmi des gens dont la vie, l'activité et le langage et les croyances ne plaisaient pas à Dieu et le heurtaient lui-même. Il était entouré de ceux qui n'aiment pas ceux qui aiment Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas s'identifier avec cet homme-là? Ou cette femme, c'est peut-être une femme qui écrit ça. Eh bien, nous habitons avec des gens, nous côtoyons tous les jours des gens qui n'aiment pas ceux qui aiment Dieu. Ou qui ont un vocabulaire, une façon de vivre qui ne nous plaît pas forcément, qui ne plaît pas à Dieu. Parfois, ça nous heurte, ça nous choque, on est mal à l'aise. Et le psalmiste est tout à fait lucide, il dit, mais je suis malheureux d'habiter parmi ces gens-là. Nous sommes parfois malheureux, mais bien sûr, on peut et on doit prier pour ceux qu'on côtoie. Parfois, c'est carrément notre famille, notre voisinage. Là où on travaille, on doit subir des attaques, des heurts au quotidien. Mais le Seigneur peut nous aider et nous soutenir lorsqu'on est dans la détresse. Et il peut nous délivrer et nous fortifier dans ces moments difficiles. Parfois, le Seigneur, comme je disais, intervient de suite. Parfois, c'est plus tard. J'ai lu l'autre jour l'histoire vraie d'un évangéliste qui a donné, il y a plus d'un siècle, a donné une Bible à une pauvre dame qui a supplié d'avoir une Bible. Elle venait de se convertir. Donc, l'évangéliste lui donne une Bible. Elle rentre à la maison toute heureuse d'avoir une Bible, mais elle habitait avec un homme, son mari, qui était anti-Dieu, blasphémateur, et qui n'avait aucun temps pour Dieu ni pour la Bible. Donc quand elle a montré avec un grand sourire sa Bible, il a pris, il l'a amené dans son atelier, il a pris sa hache, il l'a coupé en deux, dans ce sens-là. Il a jeté la moitié par terre dans le coin de son atelier. Il a jeté l'autre moitié dans la figure de sa femme. Ah, voilà ta Bible. Pleurer, elle a pleuré, 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 comme vous pouvez imaginer. Eh bien, quelques mois plus tard, cet homme-là, il travaillait dans son atelier. Et puis, il avait tant besoin d'un peu de repos, donc il s'est assis. Et il dit, je vais souffler un peu. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc, il voit quelque chose par terre, sous la poussière, dans le coin de l'atelier. Donc, il y va, et c'est la moitié de la Bible. Donc, il commence à lire. Et il commence à lire l'évangile de Luc, chapitre 15. La parabole du fils prodigue. Et il lit. Il dit, mais c'est intéressant. Et puis, tout d'un coup, l'histoire s'arrête. Parce qu'il avait le haut, et l'histoire était dans le bas, la fin de l'histoire. Donc, il dit, oh, je vais aller chercher l'autre moitié, sans dire à ma femme. Donc, il va dans la maison. Il cherche dans les affaires de sa femme la moitié de la Bible. Il ne trouve pas. Donc, finalement, il vient demander à sa femme, « Ma chérie. » En tout cas, il a demandé à la Bible, il a lu, il a compris la fin de l'histoire du fils prodigue, et il s'est converti. Et bien sûr, il demande pardon. Il fait comme d'ailleurs le fils prodigue, « J'ai péché contre Dieu, et j'ai péché contre toi. » Et le couple était réuni en Christ. La délivrance, mais ce n'était pas tout de suite. Elle a passé bien des nuits blanches, cette femme. Mais le Seigneur l'a honoré. Et puis le dernier mot, verset 7, danger. Danger de guerre. Le psalmiste dit, mais je suis un fabricant de paix. Je suis un faiseur de paix. Je veux procurer la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront enfants, pardon, appelés fils de Dieu. Il voulait procurer la paix. Mais il y avait des gens qui préféraient la guerre. Et encore, on connaît tous des gens. On veut vivre en paix avec eux, mais eux, ils préfèrent la guerre. Et dans ces moments-là, on doit juste prier et dire, Seigneur, on est dans un état d'urgence en tant que chrétien. Et on doit vivre en paix, mais on doit être aussi paisible autant que cela dépend de nous et en paix avec les autres. J'ai trouvé une autre façon de résumer ce psaume avec d'autres mots. Le mot « réalité ». La réalité, c'est que le psalmiste n'est pas à l'aise dans le monde. C'est notre réalité. Le mot « raison », il y a des raisons pour ce malaise, c'est parce qu'on est dans un conflit spirituel. Il y a le mot « réaction ». Que faire dans ce conflit? On va prier, crier, se confier. Et puis le mot « réponse », si nous prions, si nous crions, si nous nous confions, Dieu, en son temps, répondra à nos cris, à nos prières, à nos besoins. Le psaume 120. Passons au psaume 121. Je le lis. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. C'est l'Éternel qui te garde. Il te gardera de tout mal, il gardera ton âme. J'ai oublié une phrase, hein. Juste me temps de citer par cœur. Je reprends. L'Éternel sera ton ombre à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Le psaume 121. J'ai encore quatre mots pour résumer ce psaume. Le premier mot, c'est le mot secours, verset 1 et verset 2. Ce psaume commence avec une question et une réponse. D'où me viendra le secours? Et la réponse, le secours me vient de l'Éternel. Et il veut se rappeler la puissance de l'Éternel, donc il dit, c'est lui qui a fait le ciel et la terre. C'est une chose de dire, je crois en Dieu, ou je sais que Dieu m'a aidé, mais si on se rappelle, mais il est le Tout-Puissant, il a fait le ciel et la terre, eh bien cela nous rassure qu'il n'y a rien qui lui est impossible. Je lève les yeux vers les montagnes. Alors, pourquoi est-ce qu'il parle des montagnes? Alors, j'ai trouvé trois raisons. Sans doute qu'il parle des montagnes, peut-être parce qu'il parle, il pense à la beauté de la création et le fait que Dieu a fait même les montagnes. Ou alors, il dit, je lève les yeux vers les montagnes parce que, en Israël, sur les montagnes, il y avait des hauts lieux d'adoration, de culte à Baal et à d'autres dieux païens. Et puis il dit, je lève les yeux vers ces montagnes, là où on adore des statues, mais je sais que les statues ne vont pas m'aider. Les dieux, les déesses ne vont pas m'aider. Ou alors il dit, je lève les yeux vers les montagnes parce que j'ai des problèmes gros comme une montagne. Parfois on dit un problème gros comme une maison, mais on a parfois des problèmes gros comme une montagne. Et devant les montagnes, qu'est-ce qu'on doit faire? Lever les yeux plus haut. Vers le Seigneur. Qu'est-ce que vous faisiez le 31 août 1971? Je vous dirais bien sûr, c'était 20 ans avant ma naissance, mais bon, c'est pas vrai. Ce jour-là, ce verset a été entendu partout dans le monde, chez ceux qui avaient la radio ou la télévision. Parce que ce jour-là, le colonel Jim Irwin, qui faisait partie de l'équipage d'Apollo 15, il a commencé à marcher sur la Lune. Et dans son micro, il a dit, il a cité par cœur, parce que ce n'est pas sa Bible, hein, « Je lève les yeux vers les montagnes. » Parce qu'il voyait les montagnes sur la Lune. « D'où me viendra le secours ?» Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Tout le monde l'a entendu. Et suite à cela, Jim Irwin se donne à Dieu est devenu un évangéliste et il est même venu à Lyon, je crois. Il a fait plusieurs grandes villes en France dans les années 70 ou surtout 80. Donc, même à la télévision et partout, ce verset a été cité. Premier mot, donc, secours. Le secours nous vient de Dieu. Deuxième mot, sommeil. On est en danger de glisser, de trébucher, d'être déstabilisé, mais Dieu nous garde et Dieu ne sommeille pas. On est tous parfois fatigués ou parfois on est toujours fatigué, mais Dieu ne se fatigue pas. Il ne sommeille ni ne dort. Il est écrit ici, l'Éternel te gardera. D'ailleurs, dans ce psaume, il y a 8 versets et à 6 reprises, ce mot « garder » revient. Dieu te garde. Dieu nous gardera. Et la première fois qu'on trouve le mot « garder » dans la Bible, c'est dans Genèse 2, où Dieu dit à Adam « tu garderas le jardin ». Ça veut dire « tu en prendras soin ». Et ici, 6 fois, il est écrit « Dieu prendra soin de nous ». Il y a quelques semaines, j'étais avec une chère amie et son mari. Elle était gravement malade et dans l'ouest de la France. Et j'ai pu lui lire le psaume 123, d'ailleurs, le suivant qu'on regardera plus tard. Et j'ai lu ce psaume, on a prié ensemble et cette chère sœur a dit, « Seigneur, tu m'as toujours gardé. Et malgré mon état, je sais que tu vas me garder. Je me confie en toi. » 24 heures plus tard, elle était dans la présence de Dieu. Elle est décédée. Mais elle savait que Dieu allait prendre soin d'elle. Et on ne peut parler de sa confiance lors de la cérémonie d'obsèques. Parce que sa confiance est restée intacte jusqu'à la fin. Dieu nous garde et Dieu ne va pas se fatiguer ni dormir. Vers la fin de la vie de Moïse, il a composé un chant et Dieu dit, et dans ce chant, il dit, Dieu va vous garder comme la prunelle de ses yeux. Et vous savez, nos yeux sont très précieux et très sensibles. Pourquoi est-ce qu'on met des lunettes de soleil? Pourquoi est-ce qu'on met une casquette? Pourquoi est-ce qu'on ne regarde jamais le soleil dans la face? Parce que ça ferait beaucoup de mal à nos yeux. Ils sont sensibles. Et pour Dieu, ceux qui sont parmi son peuple sont très précieux. Et Dieu nous garde comme s'il protégeait ses propres yeux. Dieu nous garde jour et nuit. Il prend soin de nous. Versets 5 et 6. Le soleil. Après sommeil, c'est soleil. Le mot qui résume. Et il est écrit que Dieu sera notre ombre. Alors, il faut dire qu'on n'aime pas toujours quand quelqu'un nous fait de l'ombre. Hein? Ça, c'est sûr. Mais si c'est Dieu qui nous fait de l'ombre, ça, c'est rassurant et une grande bénédiction. Il protège, il promet de nous protéger même quand le soleil nous frappe ou même quand la lune nous frappe. La protection de Dieu malgré tout. Et bien sûr, si un chrétien joue avec le feu, est-ce que Dieu va toujours le garder? Si un chrétien se jette dans la gueule du lion, est-ce que Dieu va toujours le garder? Dieu nous demande d'être fidèles, obéissants. Et sa promesse de protection est conditionnelle. Et il nous gardera si nous gardons nos yeux sur lui. Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, cinquante-deux semaines sur cinquante-deux, 365 jours sur 365. Et tous les 4 ans, il faut ajouter un pour les années bissextiles. Dieu nous garde. Un verset dans le psaume nous dit, « Je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi. » Il y a quelque temps, on était avec des amis et j'ai vu un ami, c'était le papa d'un enfant de 7 ans. Et je voulais parler avec cet ami. Mais il regardait là-bas. Je voulais savoir pourquoi il ne me regardait pas quand je voulais entamer une conversation d'importance capitale. Et il me dit, David, je regarde mon fils. Je ne veux pas qu'il fasse une bêtise, donc je regarde. Le Seigneur, il a le regard sur nous, comme ce père de ce petit garçon. Peut-être pour nous empêcher de faire une bêtise, ou peut-être pour nous voir si jamais on fait une bêtise. Mais Dieu, il a ses yeux sur nous. Et le dernier mot pour terminer, versets 7 et 8, sécurité. Il gardera notre départ et notre arrivée. Moïse dit quelque chose de semblable. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. Arrivée, départ, départ, arrivée. Encore, cela ne veut pas dire qu'un chrétien n'aura jamais, jamais d'accident. Mais c'est une bénédiction de confier un voyage au Seigneur et de remercier le Seigneur une fois arrivé. Merci de nous avoir gardés. Merci de m'avoir protégé. D'ailleurs, c'est ce que font les juifs pieux, même aujourd'hui. Vous savez, sur le montant des portes d'une famille juive, il y a le mesura avec la loi de Dieu dedans. Et souvent, en sortant, ils touchent ou ils embrassent, si ce n'est pas trop. En sortant et en arrivant de chez eux, ils touchent ou ils embrassent le mesura. Juste pour dire merci à l'Éternel de sa protection. Et nous ne sommes pas obligés de faire ça, mais c'est bien de confier des voyages et de dire, mais Seigneur, merci, car tu nous gardes et ta main est sur nous. Je termine juste avec l'histoire de David Livingstone, c'était un missionnaire écossais du début du 19e siècle. Et un jour, il partait de nouveau pour revenir en Afrique. Il quittait son petit village natal en Écosse. Et le matin, c'était le 17 novembre 1840, le matin même avec sa femme, ils ont lu ce psaume. Ils ont prié, Seigneur, je te confie notre départ et notre arrivée. Ils sont arrivés en Afrique du Sud des mois plus tard, bien sûr, à l'époque. Et en arrivant, la belle-mère de David, chrétienne aussi, elle a dit, tu sais, avec ce long voyage que tu viens de faire avec ma fille, eh bien, j'aurais été inquiète. Mais la veille de votre départ, j'ai lu le psaume 121. Et j'ai confié votre départ et votre arrivée à l'Éternel. Le Seigneur a honoré la foi. Je termine. Si on peut résumer le psaume 120 par la phrase « Je crie vers le Seigneur », on peut résumer le psaume 121 par la phrase « Je me confie dans le Seigneur ». Et j'ai envie de vous dire, quelles que soient vos circonstances, quelle que soit votre situation, aujourd'hui à 11h30, le 22 mai 2016, je vous encourage à prier le Seigneur, à vous confier en lui et à attendre son intervention, sa délivrance et à croire qu'il est au courant de tout ce que vous vivez et il sait le moment de son intervention. Priez. Seigneur notre Dieu, merci car tu es un Dieu personnel. Bien que tu aies créé le ciel et la terre, les montagnes, et tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas. Merci car tu es notre Père céleste. Tu nous as parlé, tu nous as choisi pour faire partie de ta famille. Seigneur, aide-nous lorsque nous sommes dans la détresse, lorsque nous sommes dans des conflits. Aide-nous à nous confier en toi. Aide-nous à prier. Aide-nous à crier. Aide-nous à attendre. Aide-nous à être patient. Merci car tu es le Tout-Puissant et tu peux déplacer des montagnes. C'est pourquoi nous venons vers toi pour que tu puisses nous aider dans nos différentes difficultés et épreuves afin que nous puissions marcher avec nos yeux fixés sur toi pour être des chrétiens plus que vainqueurs. Et nous voulons aussi que tu sois honoré dans nos vies, dans nos difficultés et dans nos épreuves. Nous nous confions en toi, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen.